à partir du moment où, où c'est la guitare de quelqu'un, c'est son bébé. Les personnes sont autant stressées que ce soit une grande truc ou une guitare bas de gamme, quoi. C'est leur instrument, donc moi, dans tous les cas, j'en prendrai autant soin.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Direction Le Havre aujourd'hui, pas très loin de l'hôtel de ville, j'ai poussé la porte de la Bande Artisane, un atelier boutique où est installé Thomas, ou plutôt Wooden Hall, le nom de son atelier de lutherie. Crâne rasé, barbe fournie, larges épaules, Thomas c'est un personnage qui en impose, mais c'est surtout un passionné. Son truc, c'est de régler des instruments à cordes pincées pour qu'ils s'accordent toujours mieux à leur propriétaire. Et puis Thomas peut aussi créer des guitares ou des basses de A à Z, parce qu'il aime aussi parler bois, micro et schéma de câblage.
Je voudrais commencer directement dans le concret. J'ai vu sur ton Instagram un instrument qui s'appelle la Scramasax, j'espère que je prononce bien. C'est une super guitare que tu as fabriquée de A à Z. Combien de temps ça t'a pris ?
Alors, on a commencé à en parler avec le propriétaire au mois de juin et je lui ai livré mi-décembre.
Donc, ça fait 6 mois de travail ?
Ouais, c'est ça, mais en vrai, un peu moins. Parce que, en fait, vu qu'on était en période de déménagement, je déménageais mon atelier, donc j'ai commencé à faire du copo au mois d'août.
Qu'est-ce que tu appelles du copo, c'est quoi ?
Commencer vraiment à travailler le bois.
C'est quand tu commences à tailler.
C'est ça. Parce qu'avant avant tout ça, il y a vraiment pas mal de discussions avec, avec le futur propriétaire de l'instrument et savoir ce qu'il veut, etc. Enfin, vraiment plein de questions. On discute au moins pendant un mois. Avant de vraiment de définir un style, définir les essences de bois, définir le son qu'il va vouloir avoir. Et donc rien que ça, ça prend au moins un mois.
Le son, ça rentre en compte dans le design ?
Ah ouais, carrément. Bah, ça rentre en compte dans le... Là, c'était une guitare électrique, ça rentre en compte dans le choix des micros, par exemple. Parce qu'un micro de guitare électrique, c'est 70% du son.
Le tout début de la Scramasax et d'une autre guitare qu'on crée de zéro, c'est un dessin ou ça peut être d'abord l'essence de bois, par quoi on commence ?
Moi j'aime bien, quand on me dit j'aimerais bien me faire construire une guitare, j'ai un petit questionnaire que j'envoie où je demande qui est son guitariste préféré, quelle est la guitare de ses rêves, quel est le son sur quel morceau de quel album il voudrait avoir vraiment ce qu'il fait le plus kiffer. Et s'il a des choses qu'il n'aime pas, et s'il a des choses qu'il veut absolument. Et donc lui, il savait qu'il voulait cette forme-là. C'est une forme qui est inspirée d'une guitare de chez BC Rich, donc la Steels. Et il avait un modèle en particulier qu'il voulait, une forme de... Comment dire qui était vraiment avec un aileron, avec...
C'est une sorte de X,
c'est ça, ouais,
pour quelqu'un qui la voit pas. Hein.
C'est ça. Et c'était vraiment celle-là qu'il voulait. Et donc, mais il voulait pas celle-là.
Sur quoi tu joues pour que ce soit ce qu'il voulait à la base, mais pas vraiment la même ?
Alors, sur celle-là, on a joué sur la forme, parce qu'il y avait des angles qu'il appréciait pas dans cette guitare-là. Donc on les a retravaillés, on a joué sur l'équilibre, sur le centre de gravité, parce que c'était pas non plus opti-opti comme guitare. On a joué sur la forme de la tête, qui est aussi assez intéressante à travailler. Et puis sur les essences de bois, la couleur, la sonorité, l'accastillage.
Comment tu choisis le bois ? Parce que je sais que tu préfères, toi, aller chercher plutôt localement.
Ouais, moi j'aime bien utiliser des essences de bois locales ou alors des essences réutilisées. Donc pour celle-là, c'était une guitare qui était vraiment typée métal, qui allait être faite pour faire du métal, qui était accordée en drop, donc avec des tons en dessous d'un accordage standard. Et donc... au départ, on devait partir sur une base de châtaignier, un corps en châtaignier en fait, et parce que il aimait bien ce bois-là que je lui avais présenté, et j'avais un bout de tilleul rouge américain dans mon stock de bois, et en fait, quand je lui ai sorti la planche de tilleul, quand je l'ai poussé pour lui montrer le morceau de châtaignier, il a fermé les yeux sur le châtaignier et fait non, moi c'est ça que je veux quoi. Donc là, c'est un peu particulier parce qu'il est vraiment tombé amoureux de ce bout de bois-là, et ça tombait bien parce que le tilleul, en fait, c'est un bois qui est utilisé plutôt pour faire des basses normalement, donc des sons un peu plus graves. Mais comme la guitare, elle est accordée beaucoup plus grave, ça pouvait bien correspondre dans le spectre des vibrations en fait.
Donc, c'est ce que j'allais te demander. Le bois choisi, c'est pas qu'une question de style, il va jouer sur la sonorité.
Oui, il va jouer sur la sonorité, il va surtout jouer sur on va dire le sustain, donc la longueur de note, il va jouer sur les réponses harmoniques, il va jouer sur plein de choses. C'est moins vrai sur les guitares électriques parce que vraiment le micro est, on va dire, beaucoup plus important, mais il y a quand même une importance.
Techniquement, tu peux prendre le bois de n'importe quel arbre qui tombe pour faire une guitare.
S'il est bien sec, après il y a des bois qui se travaillent plus ou moins bien. Il y a des bois qui vont pas sonner, des bois qui sont pas faits pour ça, voilà. Mais oui, on pourrait faire une bois en n'importe quoi. Il y a plein de, en ce moment, la mode. Enfin bon, il y a quelques années, c'était les palettes au castor. Ils récupéraient du bois de palette, ils le retravaillaient, et puis ils faisaient une guitare électrique avec ça. Et il y en a qui sonnent très bien. Il y a ce qu'on appelle les cigar box. Donc, utiliser une boîte en cigare pour faire ça. Enfin, voilà, quoi. On peut faire une guitare avec tout. D'accord. Il y a même un luthier qui fait ses guitares avec des boîtes de Mondor.
Ah oui!
Parce que c'est de l'épicéa, et l'épicéa, c'est utilisé pour faire des guitares. Et donc voilà, quoi. Donc on peut tout faire avec n'importe quel bois. On n'est même pas obligé d'utiliser du bois en vrai.
Ah oui, tu peux faire encore avec autre chose?
Ah ouais, il y a pas mal de guitares. Là, en ce moment, la mode, c'est la résine. Donc des guitares en époxy moulées et redécoupées. Tous les 6 mois à peu près, on m'envoie la vidéo de la guitare qui a été faite avec des crayons de couleur. Enfin, c'est des choses qui reviennent régulièrement, les boîtes avec les nouilles, les boîtes avec les boîtes, les guitares avec les nouilles, les guitares avec les crayons de couleur, les guitares en même en matériaux un peu plus modernes, style la fibre de carbone.
D'accord.
Voilà, on peut vraiment tout faire.
Mais c'est des guitares électriques et c'est les micros qui font le boulot, en fait, c'est ça ?
C'est la plupart du temps, oui.
Toi, tu as sélectionné ton bois, vous vous êtes mis à peu près d'accord sur ce que vous voulez faire. Ensuite, il se passe quoi ? C'est quoi l'étape suivante ?
Après, on continue à discuter. Vraiment de... Parce que le choix du bois, c'est pas juste une étape. On peut choisir le bois, mais après, on regarde quel traitement on va lui faire. On regarde s'il veut une finition qui soit huilée, qui soit cirée, qui soit vernie, etc. Moi, j'essaye d'éviter toutes les finitions qui sont un peu, on va dire, toxiques pour l'humain et l'environnement. Donc les vernis PU, les gros trucs comme ça, je suis vraiment pas fan. J'aime pas les lacs non plus, parce que justement, j'aime bien utiliser des jolis bois. Donc j'aime bien qu'on voit le bois. Donc j'aime pas les grosses couleurs. On peut faire des teintes, ça c'est pas non plus ce que je préfère. Mais après, on discute de toute façon avec... C'est pas moi qui aurai la guitare, c'est lui. Donc, moi, ce que je veux, c'est que lui, il a sa guitare de ses rêves dans sa tête. Moi, je la prends dans sa tête, je lui mets dans ses mains. C'est vraiment comme ça que j'aime bien travailler.
Là, c'est ta réserve de bois qui est face à nous ?
Ouais, c'est une partie de ma réserve de bois. Donc il y a plein de trucs.
Ah oui, il y a beaucoup de choses.
Ouais. Alors ça, justement, c'est quand je parlais des essences locales ou des essences retravaillées. Ça, par exemple, c'est du platane. C'est ce qu'il y a au bord des routes.
Il vient d'où, du coup ?
Il vient de France. C'est vraiment un platane français. Et il est génial, quoi. On dirait un léopard.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un côté très léopard dans le platane, visiblement.
Ça, c'est cool. Ça, par exemple, c'est un palissandre. Donc ça, c'est une essence exotique. Et celui-là, je l'ai récupéré, c'est un linteau d'armoire normande, par exemple. Et il a la bonne taille, il est super beau. Il sent le chocolat quand on le travaille, c'est génial.
Ça va faire quoi? Parce que là, c'est pas des
grands morceaux. Ça va faire une touche. C'est là-dessus où on va mettre les frettes, les petites barres métalliques.
La touche, grossièrement, pour nos auditeurs qui connaissent pas, on va dire que c'est le manche. Enfin, c'est la partie où on pose les doigts.
C'est la partie où on pose les doigts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ah bah ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est une essence exotique aussi. C'est du jatoba.
Du jatoba.
Ouais. Et en fait, pendant mes dernières vacances, j'étais en Guadeloupe et j'ai été accueilli par une personne qui bossait le bois aussi. Et il était en train de refaire son parquet. Et donc ça, c'est du jatoba. C'est une latte de parquet qu'il m'a donnée.
Oui, il y a les encoches.
Voilà. Et en vrai, c'est un bois qui peut être utilisé, qui est précieux ici. Mais là-bas, ils l'utilisent pour faire leur parquet.
Ok. Et toi, pareil, pour faire une touche, là?
Ouais, je peux la redécouper dans l'épaisseur. Et puis, je pourrais faire deux touches au moins là-dedans, quoi. Et ça, c'est génial.
T'as ton bois, à quel moment tu commences à... Donc tu disais faire des copeaux.
Hein, oui. oui, bah, il y a d'abord, je le dessine. Je dessine la forme de l'instrument en fonction des plans, soit d'un plan préconçu, soit vraiment un dessin à main levée, imaginé de A à Z. Là, il voulait une forme spécifique, donc je suis parti sur, en gros, un plan, mais plus ou moins un plan. Après, je découpe un premier gabarit, une fois qu'il m'a validé le dessin, que j'appelle le pré-gabarit, vraiment pour avoir la forme, la vraie forme que je lui soumets. Et une fois que j'ai dessiné ce gabarit-là, je fais mon vrai gabarit. Celui-là, je le fais en plexi. Comme ça, il est transparent et donc on peut venir positionner le corps de la guitare directement sur le bois pour avoir vraiment l'emplacement exact de la guitare avec le veinage exact, avec vraiment le, pour que ce soit sa guitare au nœud près.
Donc il y a un manche, les micros, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas toutes les parties, mais...
La touche, la castillage, ouais.
Quelle est la partie la plus difficile techniquement pour toi?
Techniquement, le plus difficile pour moi, c'est le dessin. C'est pas tant le travail du bois, parce qu'après ça, c'est une technique qui s'acquiert avec le temps. Moi, le plus difficile, c'est l'invention. C'est vraiment le partir de rien et poser l'instrument sur le papier. Pour moi, c'est ça le plus difficile. Quand je pars d'une forme déjà existante, que je la modifie, je trouve ça beaucoup plus simple que vraiment de partir de rien. J'ai vraiment beaucoup de mal à... Moi, je transforme. Voilà.
Au niveau de l'assemblage, il n'y a pas de difficulté particulière. Le manche,
après,
le façon...
Oui, après, il y a toujours... Ça dépend. Il y a vraiment pas de règles. Hein. Il y a juste des principes. C'est... Ouais, la jonction corps-manche, c'est toujours assez délicat parce qu'il faut, il y a quelque chose qu'on appelle le renversement. Donc c'est l'angle du manche par rapport au corps de l'instrument qui lui peut faire qu'une guitare soit jouable ou non.
Ah oui, donc il y a de l'enjeu à ce moment-là.
Ouais, il y a toujours de l'enjeu. En vrai, quand on défonce la partie pour les micros, quand on coupe la tête, c'est tout le temps très très stressant. Parce que on sait jamais, des fois le bois il réagit pas bien et puis il y a un éclat et tapé.
Comment on fait à ce moment-là?
On se débrouille. Non, tout est réparable en vrai. En lutherie, tout est réparable. Pour poquer de la colle, c'est bon, ça passe.
T'as dit le mot micro, c'est une autre facette quand même de ton boulot. Sur une des, je crois que c'est sur ton Instagram, j'ai vu, il y a un plan de câblage.
Ouais.
Tu disais ça a pris 2 jours, il y avait un schéma. Ça a l'air très très fin. C'est quoi la difficulté en fait?
En fait, j'adore ça. Les câblages, c'est vraiment quelque chose qui me fait marrer parce que un micro peut avoir 36 000 sonorités différentes en fonction de comment on le câble. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment marrer. Et j'aime bien, on va dire, avoir des sonorités qui sont pas habituelles. Mais le problème, c'est que c'est un chemin électrique. Donc des fois, il y a des choses qui sont compatibles et d'autres non. Et trouver la façon de câbler pour que toutes les positions marchent avec le son qu'on veut et qu'il n'y ait pas d'interférence entre chaque position, des fois, ça peut être assez compliqué parce qu'il n'y a pas de... Il y a quelques sites avec des schémas de câblage, on va dire, prédéfinis. Mais c'est pas ça qui m'amuse. Moi, j'aime bien les trucs un peu alternatifs. Donc, c'est pour ça que, je sais de laquelle on parle. Et ouais, il était bien, bien chiant ce schéma de câblage-là.
Et tu peux y passer des heures et des heures.
Ouais, celui-là, j'ai vraiment passé 2 jours. à dessiner, à refaire les plans et à re-essayer pour que ça marche et que... Et ouais, c'est assez compliqué parce que là, il y avait plein de... En fait, plus il y a de possibilités, plus c'est long parce que plus il faut trouver comment faire passer le chemin du son, en fait, dans ces possibilités-là. Et... Ouais, il était bien radu, celui-là.
Et tout ça pour toucher une sonorité précise, en fait, ouais, que tu cherchais.
C'est ça. Parce que, en fait, à l'école, on a fait un petit boîtier qui nous permet de tester toutes les positions des micros. Et justement, quand on change de micro, j'aime bien essayer, faire essayer les sons à la personne, parce que c'est sa guitare. Et donc, et souvent, elle me dit, j'aime bien ce son-là, mais j'aime bien sur cette position-là, j'aimerais bien voir ce son-là. Et ok, donc comment on va faire ça? Ça va être compliqué, là. Mais voilà, tout est possible, quasiment.
Combien ça coûte de faire une guitare de A à Z? Quelqu'un qui rentre dans ta boutique, alors je me doute bien que tu vas me dire de zéro à l'infini.
Ça dépend, c'est ça.
Mais pour le guitariste qui rentre chez toi, quel budget moyen il peut compter?
En gros, pour moi, j'essaye de rester dans le standard, les prix standards des américaines. Donc des grandes marques américaines, hein, Fender, Gibson, etc. Pour que la personne, en fait, elle ait le choix, soit elle achète un produit industriel, soit elle achète un instrument sur mesure pour lui.
Donc le prix d'une américaine.
Faut compter pas moins de 2000 euros, déjà de base. Ouais. Après, en fonction des essences de bois, en fonction du travail qu'il y aura à faire, ce sera pas la même chose si c'est un corps de télécaster plat ou si c'est une table bombée ou une archtop ou vraiment des modèles qui demandent beaucoup plus de travail.
Ouais. Donc c'est des choses sur lesquelles toi, au final, tu vas pas marger énormément parce que les matériaux, je suppose, coûtent déjà cher de base.
Ouais. Oui, non, la plupart du temps, je mange grâce aux réglages et aux réparations. C'est pas la construction, c'est quelque chose qui m'amuse. Mais si je construis une à deux guitares par an, je suis très très content. Faut voir sur une guitare que je facturais 2000 euros, il y a au moins 500 à 600 euros de matériel dessus. Voilà, après le reste, c'est 6 mois de travail, donc le taux horaire, il est pas très très grand. Mais je préfère avoir une guitare à moi dans les mains de quelqu'un et sur scène que de me dire oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est mon petit plaisir.
On sent que tu es heureux quoi, quand tu manipules les différentes essences de bois.
C'est génial, parce que j'aime vraiment le travail du bois, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire, et puis c'est agréable, parce que chaque bois est différent, chaque bois a sa texture, chaque bois a son odeur. Là, comme je disais, le palissandre, il sent le chocolat, mais si je te sors un... Attends, qu'est-ce que je vais te faire sentir là.
Celui-là. Sentons des bois.
Ça, c'est de l'œil de vermeil.
De l'œil de vermeil.
Du balsamo. Donc, pareil, c'est une essence un peu exotique. Et en fait...
Là, tu nous le frottes. Avec un peu de laine de verre. Je ne suis pas très fort pour ça. Qu'est-ce que je dois sentir, là?
Alors là, ça sent les agrumes.
Ah oui, ça sent les agrumes, en effet. Ouais, complètement. Ah oui, c'est dingue.
Ouais, c'est assez hallucinant. Et là, il est, on va dire qu'il est un peu triste en termes de couleur, mais quand il est bien huilé, il tape sur le rouge. Bah, c'est la touche, la même essence de bois que la Sacramax.
Ton quotidien, c'est surtout les réglages. On peut adapter une guitare au mieux à son musicien, c'est-à-dire que si quelqu'un t'amène une Gibson, une Fender qu'il a acheté chez quelqu'un d'autre, mais qui a une guitare standard, industrielle, tu peux l'adapter à son musicien.
Oui, c'est pas parce que c'est une bonne guitare ou une mauvaise guitare qu'elle peut pas être réglée. Il y a des exceptions sur les guitares qui sont pas des vrais instruments, mais vraiment des jouets. Mais même celle-là, on peut toujours en faire quelque chose, parce que chaque personne a un style de jeu différent. Donc il y en a qui jouent fort, il y en a qui jouent pas fort, il y en a qui ont besoin d'avoir une grande amplitude sonore, il y en a qui vont juste faire un seul style de musique. La guitare, pour la régler, on va dire le plus possible à la personne. C'est un réglage, c'est pour une personne avec un tirant de corde particulier et un accordage particulier. Si on veut vraiment être opti à fond, c'est ça. Après, il y a des, on va dire, des réglages standards un peu plus passe-partout, mais là, c'est quelque chose qui se travaille avec la personne. Là, une personne, quand je lui règle son instrument, je lui dis toujours, prends-la en main une semaine, 15 jours. Elle peut être amenée à bouger. Et dans tous les cas, même si elle bouge pas, si tu vois qu'elle est trop haute pour toi, si tu vois qu'elle est trop basse pour toi, t'hésites pas, tu reviens et on fera ce jeu de ping-pong-là jusqu'à ce que toi, tu sois 100% satisfait de ton instrument.
Qu'est-ce que tu appelles trop haute ou trop basse ?
L'action des cordes, par exemple, la distance qu'il y a entre les cordes et la touche. Souvent, plus c'est haut, plus on peut avoir d'amplitude sonore, on peut faire sonner fort l'instrument, mais plus c'est bas, plus c'est confortable. Mais si c'est trop bas, ça frise, et donc c'est injouable. Donc il faut vraiment avoir cette distance-là parfaite pour la personne, parce que en fonction de comment la personne va gratter les cordes, il aura besoin de plus ou moins de distance dans ses...
Pour les non-guitaristes, quand ça frise, c'est l'ennemi. Hein. C'est que ça frotte
contre les fraises. C'est que ça vient faire un petit buzz désagréable. En fonction d'où ça frise, ça peut faire un son de sitar ou alors ça peut. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être complètement injouable.
C'est un métier passion. Toi, t'as encore un vrai plaisir à chaque fois qu'on te met une guitare dans les mains, que quelqu'un arrive avec une nouvelle guitare que tu connais pas.
Oh ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est vraiment le. Moi, j'ai toujours aimé l'objet. Guitare avant quand j'étais jeune, ouais, je préférais les démonter que jouer avec. C'était vraiment ça qui m'amusait. Et ça me permet aussi d'avoir des instruments que j'aurais jamais pu voir si j'avais été juste guitariste lambda. On me ramène des trucs de temps en temps, mais c'est des doublements japonais des années 60, un côté 12 cordes, un côté basse, tout. Voilà quoi, c'est il y a des choses que j'aurais pas vu normalement, et puis aussi des gros des instruments qui j'aurais jamais pu me payer même si j'avais vécu 3 vies, quoi. C'est aussi des choses assez intéressantes.
C'est quoi les instruments que tu aurais pas pu te payer en vue? C'est des trucs très très chers ou très rares?
J'ai eu pas mal de en termes de rareté, j'ai une Lakote, c'est un vieil instrument qui est très 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 vieux. C'est années 1500, un truc comme ça.
Ah oui.
J'ai eu des Fender pré-CBS, donc une période où Fender a été racheté, et les instruments qui sont avant cette période-là sont vraiment très cotés parce qu'elles étaient de très très bonne qualité. J'en ai eu plusieurs, j'ai eu des modèles anniversaires, j'ai eu des modèles vraiment des trucs assez extravagants aussi, mais c'est vraiment plaisant. Quoi.
Donc tu arrives à être encore surpris souvent.
Oui. Ah, oui. Et puis pas que parce que c'est du vieux ou que c'est du cher. Il y a aussi justement, grâce au fait d'avoir eu plein de sortes d'instruments dans les mains, je sais que les plus grandes marques, c'est pas les meilleures. Tout simplement, je sais que c'est pas parce que la guitare a été payée cher qu'elle va être excellente, et que de temps en temps, il faut vraiment essayer l'instrument pour se rendre compte de son potentiel et vraiment partir sans a priori. Et ça, c'est plutôt plaisant.
Quand on t'amène une Fender très rare ou quelque chose comme ça, il y a une pression supplémentaire au moment où tu la mets dans ton atelier ?
Non, je suis assuré. Pas plus qu'avec une autre. Parce qu'à partir du moment où c'est la guitare de quelqu'un, c'est son bébé. Donc même si c'est une guitare pas chère, même si c'est une vieille guitare, même si c'est un truc récent ou quoi, les personnes sont autant stressées que ce soit une grande truc ou une guitare bas de gamme. Quoi. C'est leur instrument, donc moi dans tous les cas, j'en prendrai autant soin. Il n'y a pas de... Je vais pas faire de discrimination à cause du prix ou de la marque de la guitare. Celle-là, je l'utilise principalement pour couper de l'os.
D'accord.
Pour faire des sillets en os.
Le sillet, c'est la partie...
Le sillet, c'est... sur une électrique, c'est la partie qui est tout en haut, qui est blanc, là, sur la tête, qui sert à... à ce que les cordes soient en bon appui sur le manche. Et sur une guitare, on va dire acoustique, il y en a aussi un deuxième qui est remplacé là par des pontés.
Et donc toi, tu fais des 6S sur mesure, même pour des guitares de série, en fait.
C'est ça, oui. Okay. Et c'est vraiment le, on va dire l'upgrade, le premier upgrade qu'on peut faire pour améliorer une guitare.
Okay.
C'est vraiment le truc qui coûte le moins cher et qui vraiment a de l'influence sur un instrument.
Comment on fait alors ?
J'ai des boudos de toute forme en fonction de...
Ah oui, donc t'as un petit établi avec des boudos. Quand tu dis de l'os, c'est du vrai os ?
Ouais, c'est de l'os, c'est du fémur de bof.
Ok.
Parce que bah, le fémur de bof, ça soutient un bof et donc c'est assez dense.
Ça peut tenir des cordes, a priori.
C'est ça.
Donc un fémur de bof, une machine.
C'est ça. Un aspirateur.
Ah, l'aspirateur est relié.
Oui, très important l'aspirateur. Attention, ça va faire du bruit.
Parler du plaisir que tu as à créer, du plaisir que tu as à découvrir des instruments. Est-ce que tu guettes aussi justement le plaisir de ton client quand tu lui rends l'instrument ?
Ah ouais, bah c'est. Là par contre, c'est stressant. C'est quand je remets l'instrument dans les mains, bah je reste devant lui, il l'essaye un petit peu et puis là c'est vraiment le. Alors ? Ça va ? Oui, c'est bon, ça va ? C'est bon, ça va.
La pression.
C'est ouais, bah il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, un truc comme ça où moi je la trouve bien, ou des fois je la trouve pas suffisamment. Je trouve que j'ai pas réussi à cause de contraintes techniques de l'instrument, mais j'ai pas réussi à la descendre suffisamment pour qu'elle soit vraiment ultra confortable. J'ai pas réussi à avoir le son, le truc qui fait que ça matche directement. Et quand je la mets dans les mains de la personne, elle est 10 fois plus contente que moi. Je suis vraiment beaucoup plus difficile que les clients, en vrai. Mais bon, c'est comme ça.
Pour un auditeur qui trouve une guitare dans son grenier ou qui en hérite, voilà, elle n'est pas forcément en bon état, elle est dans son jus. Quoi qu'il arrive, c'est récupérable et il peut venir te voir.
Tout est réparable, mais de temps en temps, ça ne vaut pas le coup.
Okay.
Ça va dépendre vraiment de la valeur pécuniaire de l'instrument. Parce que des fois, oui, on trouve une guitare dans son grenier ou on en trouve une à côté de la poubelle, mais c'est parce que c'est un jouet, parce que c'est pas quelque chose. C'est réparable, tout est réparable vraiment, mais est-ce que ça vaut le coup de payer 2 fois le prix de l'instrument en réparation pour avoir un truc qui, somme toute, sonnera pas terrible ?
Question philosophique. C'est quoi une belle guitare ?
C'est la guitare qui est adaptée à toi et à ton style de jeu. C'est après, en termes de beauté d'instrument, il y a tellement de possibilités que tout le monde peut trouver son bonheur, en fait. Moi, ma guitare préférée, enfin mon modèle préféré, c'est les ES. C'est les guitares avec des ouïes. C'est vraiment une forme que j'apprécie, que j'adore. C'est pour ça que là, qu'une des guitares que je me suis construite, c'est une forme ES, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore comme forme. Après, il y a plein de petites guitares, on va dire, des trucs qui sont en rapport qualité-prix extraordinaire ou qui ont une finition qui, tout compte fait, est super bien. Et ça peut être de la belle guitare. Il y a la belle guitare, il y a la belle lutherie.
C'est quoi la différence ?
La belle guitare, c'est la guitare qui est jolie à l'œil. Et la belle lutherie, c'est une guitare qui est bien faite, qui est bien finie, qui est bien... Voilà. Mais de toute façon, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de désacraliser l'objet. Parce que la guitare, c'est avant tout un objet. Et que, quand on me demande pour quelle guitare je peux acheter pour débuter, machin, je dis toujours la guitare qui te plaît à l'œil. Toujours. Parce que si la forme de la guitare, si l'objet te plaît, tu vas aller vers lui, tu vas jouer avec, tu vas essayer de le faire sonner. Et donc, tu vas t'améliorer plus vite parce que tu vas jouer. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est juste le travail de bien jouer. Alors que si c'est une guitare que tu auras moins envie d'y aller, et donc tu vas moins progresser, donc tu vas moins bien jouer, donc tu vas avoir moins envie d'aller dessus, et voilà quoi, c'est...
C'est un cercle vertueux en fait.
C'est ça, ouais.
D'avoir un bel instrument. Tu parlais de la belle lutherie, mine de rien, pour un auditeur qui veut acheter sa première guitare, à quoi il peut reconnaître une guitare qui est bien faite ?
Au feeling. C'est con, mais c'est... si on a l'impression que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien. Déjà rien que ça, même si on s'y connaît pas ou quoi, si on se dit ouais, ça fait un peu cagette, ça fait un peu jouer, je sais pas, même quand on sait pas jouer, si on gratte les cordes, le son nous plaît pas. Si c'est en magasin, il y a de bonnes chances que ce soit pas une très très bonne guitare. Mais voilà, quoi, c'est après, il y a des points techniques, mais là, enfin, souvent, les personnes qui cherchent des instruments et qui veulent aller sur le bon coin, je leur dis envoyez-moi un mail avec l'annonce et je vous dis ce que j'en pense, hein, ça va plus vite.
Oui, c'est vrai. Tu es luthier partenaire officiel d'une marque qui est Taylor, on peut la citer. Ouais. Tu es aussi luthier du groupe normand The Hall Band. Alors, je ne sais pas si l'homonymie, puisque
c'est un hasard complet.
Voilà, Wooden Hall pour toi, The Hall Band pour eux. C'est un axe qui t'intéresse, toi en particulier, de développer des guitares pour des groupes éventuellement, ou pour des guitaristes en particulier, parce que les groupes...
Alors, Taylor, c'est une grande marque américaine. En fait, j'ai été formé à l'ITEM, donc l'école de lutherie du Mans. Et après cette formation-là, j'ai aussi eu une formation par Taylor pour justement être plus spécifiquement formé sur leur guitare à eux. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas luthier partenaire, mais je suis agréé Taylor Guitare. Pour The Hall Band, c'est un hasard complet. C'est parce qu'en fait, je m'occupais des instruments de tout le groupe avant même de savoir qu'ils étaient dans leur groupe. Et puis, ils se sont dit, j'ai eu un luthier, il est bien. Ah, moi aussi, j'ai un luthier, il est bien. Et puis, donc, à moi, ils ont dit, est-ce que ça t'intéresserait? Je fais, oui, carrément. Donc, voilà, c'est vraiment du... Ça ne change rien à ma façon de traiter leur instrument.
Je fais mon huile moi-même pour vraiment huiler la touche, pour les nourrir. Et donc j'utilise de l'huile de lavande, de l'huile de romarin et du tripolis de Venise. Donc ça sent bon.
Ah oui, donc.
C'est plein d'odeur la lutherie.
J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais la boire quand tu la portais à ta bouche.
Et en fait, ça me sert à nourrir la touche. Et le fait de rajouter du tripolis, ça me sert à polir un peu les frettes, polir un peu les inlays.
Ok.
Donc pour que ça brille.
Ok, oui, donc c'est vraiment. C'est très minutieux tout ça. Hein.
Ah oui, ça c'est les finitions, c'est ce que j'adore. Mais c'est minutieux, mais c'est indispensable aussi. Parce qu'une touche qui n'est pas nourrie, c'est une touche qui va sécher. Et si la touche assèche, le bois il bouge. Et en fait, toutes les frettes, là, toutes les petites parties en métal, elles sont dans des rainures de frettes. Donc des trous. Et si jamais le bois il sèche, la rainure s'écarte, donc la frette elle saute.
On oublie que le bois est vivant en fait.
C'est ça, le bois est très très vivant, il bouge à fond.
On utilise beaucoup le mot passion, mais c'est obligatoire, on parle de musique, t'as la passion des guitares, mais il y a forcément de la musique. Si demain je te dis, il y a un artiste, n'importe lequel, qui a besoin d'une guitare et tu peux la faire pour lui.
Ouais.
Pour qui t'as envie de faire une guitare ?
Plein. Plein. Français, étranger.
Celui que tu veux.
Celui
ils
que
sont
je veux.
Tous dispo, ils ont tous besoin de toi.
Même les morts ?
Même les morts, allez, allons-y.
Même les morts, putain. Rien, c'est... Ah non, c'est trop dur.
Il y a trop de choix. Je peux réduire au vivant, hein, si tu veux.
Non, parce qu'en vrai, moi, je suis vraiment un grand fan de blues. Donc, qu'on soit une guitare pour B.B. King ou qu'on soit une guitare pour Buddy Guy ou alors pour Clapton. Il y a tellement de noms. Enfin, si on part encore plus loin, oui, d'accord. Moi, je fais la guitare de Robert Johnson hein, quand il veut. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Pour du français, je suis un grand fan de Maxime Le Forestier. Donc, c'est sûr qu'il passe la porte, qu'il me dit bonjour. J'ai entendu sur le podcast Occupation que vous vouliez me construire une guitare. Comment ça se passe, tu vois? Assieds-toi, prends un café.
On lui passe le message s'il écoute, ce qui me ferait très plaisir aussi. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu lui prépares?
Ah, bah, ce qu'il veut, comme tous les autres.
C'est vrai.
C'est vraiment... j'ai vraiment pas de modèle de guitare attitré. J'ai pas une marque, j'ai pas quelque chose. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est qu'il ait la guitare de ses rêves. Donc, c'est... Voilà, quoi. Que ce soit lui ou que ce soit une personne qui n'est pas professionnelle ou une célébrité locale, je le traiterai de la même façon.
En fait, ce qui est cool, c'est que c'est complètement altruiste. Tu dis pas « je veux lui créer ça et lui mettre ça dans les mains », c'est que tu dis « je veux que lui, il ait le truc dont il rêve et moi, je suis juste l'exécutant ».
Oui, après, il y aura ma patte, obligatoirement, parce que je vais l'orienter vers ce que moi, j'apprécie et vers ce que moi, je pense être bon pour lui aussi. C'est vraiment une discussion. Je suis pas une machine où on me programme et puis je fais exactement ce qu'il voulait. C'est vraiment, on discute et on regarde ce qui est faisable, parce qu'il y a quand même des contraintes techniques et on peut pas tout faire.
Bon, en tout cas, le message est passé à Maxime Le Forestier, si jamais. Revenons sur ton boulot au quotidien. C'est moi ou est-ce que c'est un métier un peu solitaire? On a l'image de l'artisan, alors luthier haute d'ailleurs, mais beaucoup d'artisans, seul dans son atelier. Est-ce que c'est le cas pour toi, concentré?
Oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai déménagé mon atelier et que je suis maintenant dans un tiers-lieu qui regroupe une boutique et un autre atelier pour des animations créatives. C'est parce que j'étais vraiment... à la base, quand j'ai commencé à la lutherie, mon métier d'avant, c'était barman. Donc, je voyais pas mal de monde. Et le fait de voir plein de monde, à avoir plus personne, surtout que c'est arrivé pendant la période du confinement, bon, j'ai trouvé des solutions pour quand même rester en contact avec les gens. J'ai monté une chaîne Twitch... pour pouvoir continuer à parler avec les gens, mais c'était assez... à force, ça commençait à être un peu pesant.
C'est vrai que moi, on est donc à côté de ton atelier, on s'est un peu isolé pour l'enregistrement, mais c'est vrai qu'il faut quand même que tu sois concentré par rapport à Barman. Tu as des outils et des machines qui sont quand même assez imposantes, il faut faire attention à ne pas te couper les mains quand même. Donc pas de musique trop fort, par exemple?
Si, obligatoirement de la musique. Je peux pas bosser sans son, sans musique, sans bruit derrière. Mais ça, c'est comme dans ma vie de tous les jours, en fait. Même quand je fais rien, j'ai de la musique. Donc, y a pas de...
Tu prends un peu le temps de jouer parfois, parce que ça doit être tentant. T'as des super instruments qui te passent entre les mains.
Bah, y a pas le choix, parce qu'il faut les essayer. Malheureusement, faut au moins la première chose à faire avec l'instrument avant de le régler, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à régler. Donc, faut obligatoirement jouer 5-10 minutes, un quart d'heure avec, et puis voir tous les défauts qu'elle a, ou si elle a pas de défauts, faut quand même chercher fort.
Donc, oui, j'allais dire ça dérape peut-être si l'instrument est agréable.
Oui, carrément. Oui. Oui, non, et puis surtout avec les bonnes surprises, avec les instruments, on dit ah bah, putain, ils font ça, cette marque-là. Chapeau, quoi. Carrément, c'est toujours jouer, que ce soit n'importe quel instrument. J'ai un peu plus de mal avec les instruments des gauchers, parce que je suis pas gaucher, moi, mais j'arrive quand même à les faire sonner.
Si je demande si tu prends un peu le temps de jouer, c'est que tu as parlé de la chaîne Twitch. Tu actualises aussi un Instagram, un Facebook. Pour toi, ça fait partie du boulot, en fait, maintenant aussi, d'avoir cette présence-là en ligne, ou c'est par plaisir du partage?
Twitch, c'est vraiment le plaisir, parce qu'on m'a demandé si on pouvait rester derrière moi pendant que je m'occupais de leur instrument, et que à l'époque, j'avais vraiment un tout petit atelier, qui était plus petit que la pièce où on est là. Donc,
une chambre, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, on m'a demandé ça. C'était aussi pendant la période de confinement, donc je ne voyais plus personne. L'atelier était fermé. C'était on dépose les guitares devant la porte et puis au revoir, quoi. Vraiment plus d'échanges, ce qui est assez compliqué pour justement devoir régler l'instrument pour une personne. Il faut quand même savoir comment il va aller à jouer pour pouvoir le faire. Et donc, voilà, j'ai vraiment commencé cette chaîne-là pour le plaisir. C'est toujours pour le plaisir. Je le fais, je me mets pas la pression, quoi. Je le fais quand j'ai le temps, parce que ça met quand même un peu plus de temps à discuter avec les gens qui sont sur le chat, à parler. Ça fait vraiment, comme dans les films des experts et tout, où j'explique tout. Alors là, tu vois, machin, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, je le sais, on a eu la même passion. Mais voilà, c'est vraiment... Ça met un peu plus de temps, mais c'est agréable parce que ça permet d'échanger. Et moi, j'aime vraiment bien partager mes connaissances. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais Mais si tout le monde pouvait savoir monter des cordes correctement, ça me...
Et c'est l'occasion au passage pour les gens qui te donnent leur guitare au final de voir le travail en direct.
Ouais, c'est ça aussi. C'est la plupart du temps ils ne le regardent pas en live parce qu'ils ont peur. Mais ils regardent les rediffs une fois que je leur ai envoyé le message votre guitare est prête et qu'ils viennent leur chercher. Je leur dis bah je l'ai faite en live celle-là. Ils me disent ah cool bah j'irai voir. Donc voilà. Donc ça.
Mais ils ont peur de quoi?
Bah c'est leur bébé. Hein. Ils ont peur de déjà rien que avec. Rien que d'enlever les cordes. Il y a tellement de légendes sur il faut pas enlever toutes les cordes parce que ça déforme le manche. Mmh. Le truss road, il faut uniquement le bouger les soirs de pleine lune en sacrifiant trois bébés. Enfin voilà, quoi. Il y a tellement de conneries qui est dit sur internet qu'à un moment on se dit je vais pas faire parce que si je fais mal, je vais casser. Mmh. Alors que non, tout est réversible, tout est réparable en vrai. Donc faut juste avoir les compétences, avoir les outils. Et avoir les connaissances de le faire.
Et je vends la mèche, c'est parce qu'il y a déjà eu des actes très violents sur la chaîne Twitch, ouais. Avec notamment un cassage de tête de Gibson Les Paul. Si
c'est ça, oui. Il y a une Les Paul qui était qui avait été cassée et qui avait été mal réparée avec une colle bicomposant, un truc vraiment vraiment moche, vraiment sale. Et il a fallu que je la recasse et donc je me suis dit je vais le faire en direct. Et ça a frissonné dans les
enfin, sur le chat. Les fans de guitare.
C'est ça.
Mais on précise donc c'était pour la casser pour la reconstruire.
Oui c'est ça. C'est ça, la casser vraiment pour pouvoir la réparer convenablement. Un son que j'adore et que j'essaie de convertir tout le monde à ce genre de son là, c'est câbler les micros hors phase.
Hors phase. Ouais. C'est une façon de câbler le micro.
En fait, donc, au lieu d'avoir une Telecaster classique avec un micro, avec deux micros et un sélecteur trois positions, celui-là, il est quatre positions. Sur la première position, ce micro-là, en fait, c'est un double. Mais sur la première, j'utilise qu'une seule des bobines. Donc, comme si c'était un simple. Okay. Sur la deuxième, il est complet. Donc déjà rien que la différence de son. Beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Et ensuite, la position moi qui me fait marrer, c'est les deux micros sont en série. Donc c'est comme si c'était un gros micro triple bobinage, mais câblé hors phase. Donc ça va lui rajouter une espèce de petite réverbe de salle de bain, un petit son nasillaire, parce que ça capte un peu plus les parasites. Surf rock.
T'as un petit peu évoqué ta formation. Donc c'était au Mans.
Oui.
Il y a plusieurs formations. Il y a combien de formations en France pour devenir luthier?
Je crois qu'il y a 4 ou 5 écoles de lutherie maintenant en France. Moi j'ai fait celle du Mans. Donc, qui est plus spécialisé sur les instruments, on va dire, modernes et les instruments à cordes pincées.
Et tu apprends quoi concrètement? Parce que de l'extérieur, on se demande par où tu commences
Tout, vraiment tout. On voit, c'est ça qui est bien avec cette formation-là, c'est qu'elle est très, très complète. Il n'y a pas que de l'atelier. On a aussi vu de l'histoire de l'art, de l'histoire de la musique, de l'organologie. On a vu de la com, on a vu de la compta. On a vraiment vu. Ils nous forment au métier de luthier pour pouvoir en vivre et pas que au métier de réparer des guitares. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, plutôt spécialisé donc sur les guitares, on va dire modernes. Donc on voit aussi de l'électrique, on voit aussi du câblage. On voit vraiment plein de choses.
Toi, tu avais commencé en autodidacte, donc tu ne découvrais pas totalement, tu as affiné tes compétences en fait dans cette
école. En fait, moi, comme je disais, j'aimais bien démonter mes instruments plutôt que de jouer avec. Donc à force de les régler, quand on joue avec des copains, qu'on fait des bofs, essaye, fais voir ton instrument, est-ce que tu pourrais me régler la mienne? Et de fil en aiguille, je faisais ça pour les copains. Et à un moment, on m'a demandé des choses que je ne savais pas faire. Notamment un refrettage sur une SG de 72. Donc Donc là, j'ai dit, ouais, non, je vais pas me tester sur ta pelle quand même. Ça peut... Donc je reprends là, je retourne à l'école, et puis quand j'ai fini, je reviens.
C'est un passage obligé, l'école. On peut pas devenir totalement luthier d'autodidacte.
Si, on peut. En autodidacte, c'est bien d'avoir un maître d'apprentissage. Mmh. On n'est pas obligé d'avoir le diplôme pour exercer. C'est pas quelque chose, un métier qui est soumis à réglementation. C'est soumis si on veut avoir le titre d'artisan. Mmh. Moi, je suis reconnu artisan d'art, ce qui n'est pas le cas de tous les luthiers. Mmh. Mais il y a des luthiers qui bossent très très bien et qui n'ont pas de diplôme. Il n'y a pas de, c'est pas une obligation. L'important, c'est la passion et le travail.
Passion et travail, je crois que tu vas mordre un petit, tu as déjà peut-être un peu mordu sur ma dernière question, mais on finit souvent par ça. Si tu avais un conseil à donner à un passionné qui voudrait se lancer dans la lutherie, ce serait quoi ?
Bon, essaye. Vas-y. Vas-y, fais. Hein. Il y a suffisamment de musiciens pour avoir un plus de luthiers. Hein. C'est pas. Et puis c'est génial. Mais fais-le pour les bonnes raisons. Amuse-toi, mais fais-le sérieusement. Parce que c'est des bébés que t'as entre les mains. Donc, sois soigneux et sois tatillon. Plus que tes clients.
Et donc, pour s'entraîner, il faut quoi ? Démonter plein de guitares et...
Ouais, c'est ça. Faut faire et défaire. Mmh. C'est, voilà. Et moi, je conseille quand même l'école. Mmh. Parce que j'ai eu de très bons souvenirs et je sais que j'ai eu pas mal de connaissances là-bas, malgré le fait que j'étais déjà, je vais pas dire dans le milieu parce que j'étais pas professionnel, mais j'avais déjà commencé à faire de la lutherie avant l'école. Mmh. Mais ils m'ont apporté des connaissances techniques et humaines aussi, qui me servent bien aujourd'hui.
Merci beaucoup, Thomas.
Je t'en prie.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook sur les comptes @OccupationPod. Occupation est au pluriel. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.